toujours Cyrus, toujours sur le Bruxelles Game Festival. Je suis en compagnie de Tanju. Donc Tanju, tu es le président de l'association qui organise le Bruxelles Game Festival. Alors tu vas nous en parler, c'est une association, comment ça fonctionne?
Oui, donc c'est une association qui s'appelle Ludiris, qui a été créée en 2013. Après la première édition du Bruxelles Game Festival, qui était organisée vraiment par des copains, en fait. Des amis avec lesquels j'avais organisé la première édition. Et cette première édition, en fait, était née était la suite logique, en fait, d'un premier événement qu'on avait organisé l'année précédente, en 2012, qui s'appelait les 24 heures du jeu. Et cet événement, on l'avait organisé dans le cadre d'un festival pluridisciplinaire, un festival culturel et artistique, qui s'appelait Checkpoint. Et le but de ce festival, c'était de casser les frontières, justement, de faire un anti-checkpoint. Et moi, qui suis impliqué dans le monde du jeu depuis une dizaine, quinzaine d'années, je voulais intégrer effectivement le jeu jeu de société, le jeu et la société, dans un festival comme celui-là. Dans ce festival, il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait du cinéma. Toutes les disciplines artistiques étaient représentées à travers différents projets. Et il y avait effectivement ces 24 heures du jeu qui avaient leur place au sein d'un événement culturel. Donc cet événement a été organisé en 2012. Et à la suite de ces 24 heures, qui se déroulait dans une très belle salle à Bruxelles qui s'appelle La Tentation, qui avait rassemblé à l'époque 400-500 personnes sur ces 24 heures. Donc un petit événement, on va dire, à l'échelle du BGF tel qu'il est aujourd'hui. À l'issue donc de cet événement, il y a eu pas mal de connexions qui se sont mises en place. Et on s'est dit, tiens, on a fait ces 24 heures, pourquoi ne pas aller un peu plus loin? Et on a eu à l'époque deux restos jeux, enfin un bar à jeux et un resto jeux qui se font face dans la rue de l'enseignement à Bruxelles, qui était partenaire déjà dans la première édition, pas dans la première édition, disons dans le Checkpoint Festival.
Tu peux nous les nommer?
Donc c'est l'Outpost, qui est le bar à jeux qui est très fréquenté à Bruxelles, et la table Food and Games, qui est située juste en face, dans cette galerie du Parlement et de la rue de l'Enseignement, qui m'ont proposé d'accueillir une nouvelle formule des 24 heures du jeu. Le souci, c'est que ce sont deux établissements, ce sont des bars à jeux, en fait, et des restos, un et un resto jeux, qui ont une surface réduite. Pour faire un festival, on avait quand même un peu d'ambition, même si cette première édition a été organisée un peu à l'arrache en 3 mois.
Et c'est surtout, moi j'ai vu la table, j'ai vu effectivement qu'il n'y a pas possibilité d'accueillir 400 personnes dedans, c'est tout à fait impossible, on est d'accord.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc on s'est dit, tiens, on a deux lieux là qui sont vraiment des centres névralgiques, je dirais, du monde ludique à Bruxelles. Mais il faudrait peut-être sortir des murs. Et on s'est dit, tiens, ouais, pourquoi ne pas essayer de prendre la rue? On a demandé l'autorisation, évidemment, à la ville de Bruxelles.
Ah, il vaut mieux quand même.
Voilà, qui nous a accordé. On a demandé d'abord toute la rue, donc c'est la rue de l'enseignement, une rue située au centre de Bruxelles, près du Parc Royal. Et on avait à l'époque, pour cette première édition en 2013, on avait demandé toute la rue, on nous a accordé la moitié de la rue. On était déjà très très satisfait avec un tout petit budget, et on a réussi à monter un petit événement comme ça, sympathique. Mais on voulait garder l'esprit des 24 heures, c'est-à-dire faire un événement non-stop, consacré entièrement au jeu. Mais comme on voulait prendre le week-end, on voulait démarrer le samedi et on voulait terminer le dimanche. Ça faisait plus que 24 heures. Au total, ça faisait 32 heures. Mais 32 heures du jeu, c'est pas très sexy. Et alors, on a cherché un nom. Et puis, finalement, et puis en plus, comme Bruxelles est une ville bilingue institutionnellement, donc il y a des francophones, il y a des néerlandophones, mais de fait multilingue, il fallait trouver un nom, un titre en tout cas, également passe-partout. Et donc, on s'est arrêté sur Bruxelles Game Festival.
pour français, ni les francophones, ni les néerlandophones. Effectivement, ouais, c'est une bonne solution, l'anglais.
Anglais, voilà, anglophone, ouais. Tout à fait.
Donc ça, c'est la genèse du Bruxelles Game Festival. Et donc, effectivement, moi, je suis venu l'année dernière, donc en 2015. On était encore en route de l'enseignement. Et là, cette année, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression qu'on soit en route de l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé?
Tout simplement qu'on s'est rendu compte à l'issue de l'édition de l'année dernière qu'on était vraiment arrivé aux limites du festival dans une rue.
Là, pour le coup, vous aviez toute la rue l'année dernière, il me semble.
Ah oui, à partir de la deuxième édition, on a eu toute la rue. L'année dernière, on avait également une galerie couverte. Mais on avait en plus l'année dernière une école qui mettait à disposition une partie de ses locaux. Donc ça, c'était vraiment très chouette. On avait un chouette partenariat avec cette école primaire qui est située sur la rue de l'enseignement. Mais malgré tout, on arrivait vraiment à saturation. On était le festival, voilà. On sentait que le festival allait se développer, qu'il y avait vraiment des opportunités là. Que le monde du jeu est en pleine effervescence en Europe et particulièrement ici en Belgique et à Bruxelles. Et que voilà, avec tous les partenaires qui s'associent maintenant au BGF, il fallait trouver un endroit, un lieu en tout cas, qui puisse accueillir un événement à l'échelle européenne. Voilà. Alors, dans un premier temps, on avait pensé rester dans le quartier, parce que ce quartier, on est attaché historiquement à ce quartier.
Et puis, il y a effectivement les deux lieux que tu citais, la table et l'outpost.
Ouais, tout à fait. Et donc, on voulait vraiment rester là. Alors, la seule possibilité dans le quartier, c'était le Parc Royal. On avait déjà un pied, on organisait les tournois, enfin les animations et les tournois de Mulky dans ce Parc Royal. On avait pris une partie des allées du parc. Malheureusement, il n'était pas disponible sur le mois d'août. Il y a énormément d'activités qui se déroulent dans le parc.
Ouais, pour être venu l'année dernière, effectivement, j'ai vu. D'ailleurs, à la même période, il y avait un festival d'art du cirque, je crois, ou quelque chose comme ça.
Donc, c'est du théâtre forain, donc un festival de théâtre forain, festival du théâtre nomade, avec lesquels on était partenaire aussi. Donc, on a des publics assez proches, finalement. Malheureusement, cette année, il y avait d'autres événements qui se sont joints. Et le festival théâtre nomade a grandi également, il fêtait ses 10 ans. Et donc, il était quasiment impossible de prendre le parc, ce parc-là en tout cas, le Parc Royal. Et donc, il a fallu trouver une solution. Et la solution qui a été finalement adoptée, c'est le Parc du Cinquantenaire, qui est un autre parc un peu plus éloigné, qui se trouve plutôt dans du côté du quartier européen de Bruxelles.
Oui, c'est plutôt un quartier d'affaires, en fait, j'imagine, à la base, non?
Ouais, oui. C'est un quartier aussi, c'est de jonction entre, effectivement, ce quartier européen, qui est un quartier plutôt sorte de ghetto, je dirais, des expats européens, voilà, on va dire ça. Et alors, vous avez également la commune d'Etterbay qui est vraiment à côté du parc. Et une partie du parc, d'ailleurs, est sur le territoire de la ville de la commune d'Etterbay. Et là, vous avez également, vers le bas d'Etterbay, des quartiers plus populaires. Et donc, voilà, on a une mixité ici dans cet environnement qui nous plaisait aussi.
Et en fait, donc, ouais, alors ce parc, en fait, juste pour indiquer à nos auditeurs, c'est quand même un parc assez grandiose, c'est énorme. Il y a vraiment une surface qui est impressionnante. Du coup, pour le moment, le festival, je dis pour le moment exprès avec un petit clin d'œil à Tanjou, pour le moment, le festival occupe une toute petite partie du parc, plus le musée de l'armée, c'est bien ça ?
C'est ça. Oui, donc effectivement, le parc est gigantesque. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la surface totale du parc. Nous occupons donc trois allées du parc qui font face au hall Bordio, donc il y a une des salles du musée de l'armée, qui est un énorme musée ici à Bruxelles. Voilà. Oui, c'est un musée fédéral qui dépend du gouvernement fédéral et de la défense, du ministère de la défense. Donc on est vraiment au cœur du système de défense belge.
Ouais, alors on est en train de réaliser cette interview dans le musée de l'armée. Alors j'avoue que c'est assez particulier parce que on a le jeu qui investit ce musée. Moi j'ai trouvé ça assez paradoxal et d'ailleurs j'ai tweeté faites des jeux pas la guerre. assez surfait, un peu, peut-être comme expression, mais un peu copié, on va dire. Mais j'ai vu, effectivement, il y a une petite exposition, il y a des jeux qui sont dans la galerie, qui sont exposés à la place, j'imagine, d'autres choses, qui sont habituellement dans ce musée de l'armée. J'ai croisé une personne qui m'a dit, moi, jamais je serais venu dans ce musée de l'armée, en fait, s'il n'y avait pas eu ce festival. Donc je trouve que c'est bien en fait qu'on dédramatise un peu ça et que ce lieu qui est effectivement un lieu de l'armée, on va en reparler, s'ouvre à d'autres choses.
Ouais, tout à fait. Bon, on a pu occuper donc l'espace du hall Bourdieu parce qu'il était disponible. Hein. On a cherché autour du parc un lieu qui pouvait accueillir donc les activités en intérieur du festival. Et le seul lieu, finalement, c'était ce hall Bourdieu qui accueille en fait des expos temporaires du musée. Et la dernière expo temporaire, c'était l'expo sur la guerre 14-18 qui s'était terminée. Et il y a des travaux qui sont prévus en principe ici. Au départ, c'était même fin août, on nous avait annoncé ça. Et puis finalement, ces travaux n'ont jamais eu lieu. Ils ont été reportés au second semestre. Et donc l'opportunité se présentait effectivement d'occuper ce hall, voilà. Et donc c'était aussi un clin d'œil par rapport à une activité comme l'activité ludique, d'occuper un lieu qui est quand même chargé de mémoire comme ce musée de l'armée, voilà.
Alors il y a un petit crossover quand même qui est fait. J'ai vu dans certaines vitrines, j'ai vu des jeux plutôt orientés militaires, j'ai vu du Wings of Wars, j'ai vu des choses comme ça. Donc j'ai vu que vous avez tenu à garder un petit lien, mais c'est pas le cas sur toutes les vitrines.
Oui, non, les vitrines en fait essayent de montrer un peu toute la diversité de ce qu'on retrouve ici au BGF, mais on voulait quand même aussi développer donc la dimension jeu de simulation, donc wargame. C'est aussi un lien aussi avec le contexte dans lequel on se trouve, quoi, clairement. Ouais.
Oui, un lien évident. On a parlé un petit peu de la création de ce festival. J'aimerais qu'on aborde un petit peu maintenant ce que vous faites sur ce festival. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Commençons par ce hall. Donc dans ce hall, il me semble qu'on accueille une partie prototype. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça ?
Oui, donc une partie du hall effectivement est occupée par ce qu'on appelle la protozone. Donc ils sont des prototypes de jeunes créateurs non édités qui sont en recherche effectivement soit d'éditeurs, soit qui veulent tester leur jeu pour l'améliorer et proposer à des éditeurs ou des agents. Donc c'est effectivement un aspect qu'on a développé dès le début au sein du BGF et auquel on tient énormément. Et en ça, effectivement, on est assez proche de la philosophie, par exemple, d'un festival comme Ludinor, avec lequel on est en contact étroit. Et on aimerait effectivement développer cette dimension-là avec eux. Et je pense, voilà, c'est un aspect qui nous tient particulièrement à cœur.
Il y a un concours organisé sur les protos. Il me semble que j'ai vu des fiches avec des notes que les gens peuvent donner.
Tout à fait. Donc c'est la première fois qu'on le fait cette année. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de concours, il n'y avait pas de prix. Cette année, on a décidé de créer un prix du public qui est le Meeple Peace d'or, voilà, qui sera attribué par le public au jeu coup de cœur, je dirais, de cette édition-ci. Voilà.
C'est Peace du Mannequin Peace ?
Tout à fait, Meeple Peace. Le Meeple Peace est notre mascotte. Hein. Il a circulé un peu partout sur les festivals ces derniers mois. Et on peut le retrouver sur des selfies et des photos sur notre page Facebook et Twitter. Donc voilà, c'est notre mascotte depuis cette année. C'est notre Meeple Peace. Voilà.
Ouais, j'ai cru voir effectivement quelques photos passer. Ouais. Mais je trouve que vous avez fait une com assez bien faite, en fait, surtout cette année, j'ai l'impression. J'ai vu un peu moins l'année dernière. Il y a eu des efforts de fait sur ces aspects-là.
Oui, on a beaucoup travaillé. Bon, il faut savoir que tout le festival est porté quasiment par des bénévoles. Moi, je coordonne le festival et j'ai pu négocier avec l'association qui m'emploie d'être déchargé d'une partie de mes missions pour les consacrer à la coordination du festival. Donc je suis quasiment le seul salarié, je dirais, du festival. Et on a par ailleurs, au sein de l'équipe aussi, pour tout ce qui concerne l'audiovisuel, une équipe multimédia. Mais le reste de l'équipe, elle, est composée de bénévoles, certains déjà impliqués dans le monde du jeu, voilà, comme ludothécaire ou comme enseignant, voilà.
Ok. Alors pour continuer le paysage du BGF, alors on a expliqué qu'il y a cette protozone, donc il y a tout un espace éditeur avec également un espace plus animation, si j'ai bien compris. En fait, on a les éditeurs qui sont regroupés à peu près sur les trois allées, et puis on a deux allées qui sont un petit peu plus excentrées, qui sont plus orientées animation, jeu libre.
Oui, tout à fait. Donc on a concentré sur trois allées donc les éditeurs, les stands des éditeurs, qui proposent également des animations. Et puis on a sur d'autres allées, là plutôt des associations, des clubs, des fédérations qui parfois ciblées sur un aspect du jeu. Par exemple, on a la Fédération Belge de Go, on a également un club de jeux d'échecs, et puis on a des clubs de jeux de société, de jeux de rôle ou de jeux de plateau qui font également des animations. Et puis on a toute une partie de cette zone-là avec des jeux géants, des jeux surdimensionnés. Et là, on a notamment un club qui vient de Flandre qui fait ses animations jeux surdimensionnés. Ils ont d'ailleurs conçu une carte spécialement pour le BGF du métro bruxellois pour Ticket to Ride, donc les aventuriers du rail.
Ah, je crois que j'ai aperçu effectivement la carte. On s'est dit c'est du Ticket to Ride. J'ai vu des wagons surdimensionnés, tout ça. J'avais pas tilté que c'était une carte du métro de Bruxelles.
C'est le métro bruxellois, donc ils ont reproduit avec quelques petites variantes dans la règle. Mais voilà, c'est un cadeau qu'ils nous ont fait pour le BGF.
C'est un beau clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le Bruxelles Game Festival? Moi, j'ai vu un événement qui est assez singulier ce matin, enfin, qui a démarré ce matin, je crois que ça continue, à l'étage de la hall Bordio.
Oui, donc là on a la bourse aux jeux, donc c'est une brocante. Il y a beaucoup de succès, on a démarré ça lors de la deuxième édition. Et cette bourse aux jeux, bah, c'est une brocante de jeux d'occasion. Il y a énormément de chineurs. On a une bonne vingtaine d'exposants. Et puis il y a la possibilité également pour les personnes qui ne veulent pas rester bloquées à un stand toute une journée, de déposer leur jeu à notre stand collectif qui est géré par nos bénévoles. Et donc, c'est une bourse qui marche très, très bien, de très, très bonnes affaires à faire. Bon, maintenant, à cette heure-ci, je ne sais pas, je crois que les meilleures affaires viennent de passer. Je crois qu'il y a aussi des jeux de collection qui seront mis en enchère dans les prochaines heures. Voilà.
Ça existait effectivement déjà l'année dernière et c'était fait dans l'école, il me semble. Enfin, ça doit être la salle de sport, j'imagine, de l'école. Et alors, c'était un petit peu serré l'année dernière et là, on est bien content de pouvoir un peu mieux circuler dans les allées de la halle Bordio. Dans cette bourse.
Oui, on était déjà les trois dans le gymnase de l'école. Et finalement, je me rends compte que là aussi, c'est à l'étage effectivement du hall Bordio, dans la mezzanine, on s'est retrouvés encore une fois à l'étroit. Je pense qu'on va couper un peu plus d'espace dans l'année prochaine si on arrive à réorganiser l'événement ici dans le musée, s'il n'est pas occupé et s'il est disponible effectivement pour nous accueillir.
Ouais, effectivement, bon, ça, on circulait mieux quand même que l'année dernière, honnêtement. Mais on sent que l'année prochaine, si ça grossit encore, ça va devenir compliqué. Il y a d'autres événements encore dans la halle Bordio, j'ai vu. Alors, il y a un thème cette année en particulier.
Alors cette année, on a beaucoup développé ce que nous avons appelé le pôle culture. On a essayé de rassembler toutes les initiatives du monde associatif et du monde enseignant autour du jeu. Et le thème qui a été choisi cette année par le pôle culture, c'est l'accessibilité au jeu et par le jeu. Et donc il y a tout un espace, toute une zone dans le hall qui s'appelle Jeux et Société, où on peut retrouver une dizaine d'associations qui soit ont développé des jeux pour sensibiliser à une cause, à une démarche ou à leurs actions. Soit utilisent des jeux déjà commercialisés, déjà existants, pour développer certains aspects de leur programme. Par exemple, on a le club de jeux mathématiques qui utilise le jeu pour développer les compétences mathématiques. Et ce club a été créé au sein d'un institut pédagogique, l'Institut Francisco Ferrer, voilà, qui est une école supérieure à Bruxelles. Je voulais aussi ajouter que dans le cadre de ce pôle culture, on a aussi édité le premier numéro du magazine donc du BGF, le BGF Mag, qui est consacré à l'accessibilité, où on retrouvera une bonne quinzaine d'articles de fond sur ce thème, et également un guide des sorties ludiques à Bruxelles. Donc j'invite tous ceux qui sont éventuellement intéressés par la question à le commander éventuellement via le site ou via la page Facebook du BGF.
Bah écoute, je te remercie beaucoup. En fait, il se trouve qu'il y a encore d'autres événements qui se passent dans le hall Bordio. Il y a des conférences, des tables rondes. Et il se trouve que je suis intervenant d'une table ronde et qu'on est en train de m'appeler. Donc bah écoute, je vais devoir mettre fin à cette interview qui était super intéressante. Je te remercie beaucoup du temps que tu m'as accordé, Tanju. Je te dis à l'année prochaine, au revoir.
Oui, merci. Merci Cyrus en tout cas. Je salue tous nos amis français et au-delà, puisqu'on vous écoute bien au-delà des frontières françaises. Moi je suis un auditeur de la première, les tout premiers podcasts, c'était il y a 3-4 ans, 6 ans déjà, voilà, j'avais découvert ça à l'époque et j'ai pas arrêté de suivre le podcast, donc voilà, je suis très content que vous soyez là.
Bah écoute, nous aussi on est très contents, je t'en remercie.
Merci à tous.